Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Journal Nico Kalambay. À la une ce midi, l'intégration de la République démocratique du Congo à la communauté des États d'Afrique de l'Est au centre des échanges entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Rubavu au Rwanda ce vendredi. D'autres questions bilatérales, notamment la sécurité des personnes mais aussi des dégâts causés par le volcan Nyiragongo, figurent dans l'agenda des deux chefs d'État. Une délégation de la nouvelle dynamique de la société civile vient de mener un plaidoyer pour la délocalisation des prisons centrales de Bukavu au sud Kivu, Muzenze de Goma au nord Kivu, Ndolo et Makala de Kinshasa, Kasapa de Lubumbashi vers les milieux ruraux. Vous écouterez Jean-Chrysostome Kijana, président national de la nouvelle dynamique de la société civile en RDC. Quelles précautions les chefs des confessions religieuses et leurs fidèles doivent prendre pour se prémunir de la troisième vague de Covid-19 ? Pour répondre à cette question, nous recevons comme invité le président du consortium des confessions religieuses dans la région de Béni, Bishop Janvier Baraka. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Une rencontre est prévue ce vendredi à Rubavu, au Rwanda, entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. Selon des sources de la présidence de la République, cette rencontre prévoit notamment la signature des plusieurs accords bilatéraux entre les deux chefs d'État, notamment avec l'intégration de la République démocratique du Congo dans la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le point avec Gabriel Ouaménia.
Selon les sources de la présidence, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, est attendu ce vendredi à Rubavu, au Rwanda, où il doit rencontrer son homologue rwandais Paul Kagame. Sur place, les deux personnalités devraient d'abord visiter la zone rwandaise touchée par la lave de la dernière éruption volcanique de Nyiragongo du mois de mai dernier. Cette rencontre bilatérale prévoit également la signature de plusieurs accords bilatéraux entre la RDC et le Rwanda. C'est entre autres l'intégration de la RDC dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est, affirment les sources de la présidence. D'autres questions bilatérales, notamment la sécurité des personnes, mais aussi les dégâts causés par le volcan Nyiragongo, figurent dans l'agenda de ces deux chefs d'État. Demain samedi, le même balai diplomatique va se poursuivre du côté de la RDC, précisent les sources de la présidence. Le président Paul Kagame sera reçu par son homologue congolais à la Grande Barrière, où ensemble, ils vont visiter la zone endommagée par la lave à Kibumba. La signature d'autres accords bilatéraux entre ces deux chefs d'État est prévue à l'hôtel Serena de Goma, où un point de presse est prévu à la fin de la visite. Goma, Gabriel Ouaméa, Radio Kapi.
Au Maniema, les 37 mutualités composant les 7 territoires du Maniema viennent de passer en revue la situation sociopolitique de l'heure dans la province. Situation qui, selon elle, qui s'observe dans le rang des députés, un climat de méfiance entre l'organe délibérant et l'exécutif provincial, chose qui entrave le bon fonctionnement des institutions et enfreint systématiquement le développement de la province. À l'issue de leur rencontre, ces derniers concluent que le Maniema n'a pas besoin pour le moment des élections d'un gouverneur, moins encore d'un député provincial comme gouverneur. Voici les quelques recommandations formulées au président de la République, lues ici par M. Idi Selemani, rapporteur, au micro de Florence Kizalunga.
Nous, représentants de toutes les communautés du Maniema, tenons à déclarer ce qui suit. Considérant que, depuis l'avènement à la tête de notre province, de son Excellence Afan Idrissa Mangala comme gouverneur intérimaire, il s'installe un climat de paix et un petit espoir régnait dans la ville de Kindu et surtout toute l'étendue de la province pour son décollage. Pour l'intérêt suprême du peuple, demandons le rejet ou déconsidération de toutes les démarches de nos députés provinciaux présents à Kinshasa pour leur propre fin, car l'élection du gouverneur de la province du Maniema ne constitue pas au stade actuel une priorité pour la population du Maniema. Que le chef de l'État appuie matériellement et financièrement les gouverneurs à l'intérim pour pouvoir rattraper et surtout la réalisation de sa vision dans notre province, nous disons le peuple d'abord. En clair, le Maniema n'a pas besoin pour le moment des élections d'un gouverneur, moins encore d'un député provincial comme gouverneur.
Je le disais en titre, plaidoyer auprès du ministère de la Justice pour l'humanisation des prisons de la RDC, c'est la mission que vient de mener une délégation de la nouvelle dynamique de la société civile dont la capitale. Dans un point de presse hier jeudi à Kinshasa, le président de cette structure citoyenne dit avoir discuté avec les autorités compétentes du pays sur la garantie des différents droits élémentaires des prisonniers. Concrètement, Jean Chrysostome Kidjana recommande aux autorités congolaises la délocalisation des prisons centrales de Bukavu au sud Kivu, Munzenze de Goma au nord Kivu, Ndolo et Makala de Kinshasa, Kasapa de Lubumbashi vers des milieux ruraux. Aussi, les autorités sont appelées à assurer également une formation socio-professionnelle aux prisonniers pour qu'ils soient utiles à la nation après avoir purgé leur peine. Les propos de Jean Chrysostome Kidjana, président national de la Nouvelle Dynamique de la société civile en RDC, ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Dans notre pays, les prisons sont aujourd'hui considérées comme des mouroirs et les prisonniers n'ont plus de droits. Et ça serait très important que nous puissions mener de grands plaidoyers autour de plusieurs thématiques, notamment en lien avec cette nécessité d'humanisation des prisons. Et par humanisation des prisons, nous sommes en train de voir dans quelle mesure les différents droits élémentaires des prisonniers peuvent être garantis. C'est notamment le droit à une bonne alimentation, le droit aux soins de santé de qualité. Mais au-delà de cet aspect purement de l'humanisation, nous sommes en train de plaider auprès des autorités du pays pour la délocalisation de certaines grandes prisons de notre pays. Nous sommes en train de vouloir les délocaliser parce que, en deuxième lieu de notre plaidoyer, nous avons insisté auprès des autorités judiciaires pour que les prisonniers soient maintenant à mesure d'être formés, d'être initiés à des métiers socio-professionnels pour qu'à la sortie de la prison, qu'ils soient utiles à la société. C'est possible aussi de transformer nos prisonniers parce que la mission de la prison, c'est pas seulement la peine, c'est pas seulement l'amendement, il y a aussi cette mission de resocialisation et de réinsertion sociale du prisonnier.
Au Nord Kivu, un surpeuplement exponentiel est constaté dans les prisons centrales du Nord Kivu, déplore le bâtonnier du barreau de l'Ordre des avocats du Nord Kivu. Maître Abel Toumba attribue cette situation au dysfonctionnement de la justice à la suite des conséquences de l'état des sièges décrété dans les deux provinces orientales du pays. À l'issue d'une rencontre hier jeudi avec le gouverneur militaire, celui-ci plaide pour la promulgation des mesures d'accompagnement de cette décision du chef de l'État. Bernardin Nyangui.
En présentant un état des lieux des dossiers judiciaires au gouvernement militaire, le bâtonnier du barreau de l'Ordre des avocats évoque plusieurs faits relatifs au dysfonctionnement de la justice depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur l'état des sièges en province. Conséquence, tous les dossiers des juridictions de droit commun s'accumulent et entraînent entre autres le surpeuplement constaté en milieu carcéraux. Maître Abel Ntumba.
Toutes les affaires répressives des juridictions de droit commun ont été transférées à l'auditorat militaire, à la cour et au tribunal militaire. Mais ces juridictions militaires n'ont pas suffisamment, en termes numériques, de capacité de pouvoir recevoir tous ces cas. La chambre du conseil ne siège plus depuis que l'état des sièges a commencé. Ça fait qu'il y a encore une augmentation exagérée des détenus. Tous les dossiers transférés avec prévenus chez les militaires ne sont pas instruits, faute de magistrats militaires. Les statistiques que j'ai eues la semaine dernière faisaient état de près de 2900 prisonniers à Goma, sur une capacité, je crois, de 150. À Butembo, Beni, c'est vers 700 prisonniers. Sur une capacité de 80 quelques, c'est alarmant.
Le barreau de Goma demande une promulgation urgente des mesures d'accompagnement de l'état des sièges dans le secteur de la justice. Goma, Bernard Dengangui, Radio Capi.
Dans le territoire de Lubero, les Mai Mai FPP de Kabidon ont enlevé plus de 20 personnes et torturé plusieurs autres jeudi dernier à Luanga, une localité située dans le groupement Itala en chefferie de Batangi. La société civile locale affirme que le péché des victimes, c'est de n'avoir pas accepté d'exécuter les travaux forcés auxquels elles ont été soumises par ces miliciens. Cette structure citoyenne condamne ces exactions qui deviennent récurrentes dans la zone. Elle appelle les autorités compétentes à mettre fin à ce calvaire de la population. En réaction, le nouvel administrateur militaire de Lubero promet d'effectuer une descente incessamment à l'état-major de Kabido afin qu'il concrétise son vœu de la reddition. Grâce à Mzati pour les détails.
25 personnes au total, dont deux femmes, ont été enlevées par ces miliciens qui exigeraient 100 dollars à chaque otage pour sa libération. D'après un acteur de la société civile dans la région, les victimes ont décidé d'ignorer les injonctions de ces maï-maï, à savoir transporter des planches du lieu de leur exploitation jusque dans la cité. Des planches qui appartiennent à des opérateurs économiques de la place et qui auraient payé ces maï-maï pour assurer leur transport, rapporte notre source. La société civile dénonce cette complicité entre maï-maï et certaines personnes influentes du milieu qui contribuent à la souffrance de la population. Face à toutes ces exactions, l'administrateur militaire de Lubero indique qu'une délégation composée de FARDC et la MONUSCO à travers la section DDR ainsi que de la société civile va rencontrer le leader milicien Kabido dimanche prochain afin qu'il concrétise son vœu de reddition. Le colonel Ndonda Mandongo Dona affirme que l'heure n'est plus aux négociations avec les Mai Mai car tous ceux qui ne voudront pas adhérer au processus de paix seront traqués. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Restons à Butembo pour vous dire que les conducteurs des taxis voitures voiture sur l'axe Boutembo-Bounia disent en avoir assez des tracasseries de la police de roulage. Ces derniers exigent le paiement d'une somme de 10 000 francs congolais à chaque point de contrôle routier, affirment ces conducteurs. Ils se disent axificiés et plaident pour une intervention urgente des autorités compétentes afin de leur permettre de continuer à servir la population. L'un d'eux explique leur calvaire au micro de Sadiki Aboubakar.
Quand tu pars de Boutembo, le chemin de la croix commence à Mbao. Là, si tu mets juste un pneu ou juste un petit sac sous le capot de la voiture, tu payes 10 000 francs au policier de roulage. Il n'y a aucune quittance ou même un reçu. Le policier prend seulement l'argent et l'empoche. De là, tu avances jusqu'à Eringeti. C'est encore la même chose. Tu laisses 10 000 francs au policier de roulage. Et à Luna, l'entrée de l'Ituri, tu rencontres d'abord des policiers auprès de qui tu laisses 10 000 francs. Et à la barrière, tu payes le guichet unique. On nous avait dit qu'en payant le guichet unique, tu vas voyager jusqu'à destination sans payer un autre frais ou service. Mais c'est bien le contraire. Si ta voiture transporte des personnes, tu payes 13 dollars de guichet unique. Si tu transportes des marchandises, c'est 23 dollars. En Ituri, après Luna, les policiers sont à Komanda, à Irumu, à Marabo et à l'entrée de Bounia, à tous ces endroits, nous laissons de l'argent et nous arrivons à destination même réduite.
Contactez le porte-parole de l'armée à Ituri, met en garde les policiers et militaires qui s'adonnent aux tracasseries sous ces taxes routiers. Le lieutenant Jules Ngongo affirme qu'une enquête sera menée et les coupables subiront la rigueur de la loi. Direction Sud Kivu, la province a réceptionné hier jeudi un deuxième lot des vaccins AstraZeneca contre Covid-19. Cela en remplacement du premier lot qui est arrivé à expiration hier 24 juin. C'est pour assurer la continuité de la vaccination par l'injection de la deuxième dose chez les personnes ayant déjà reçu une première dose. Au Sud Kivu, à ce jour, seulement environ 3000 personnes ont été vaccinées du 10 mai au 24 juin 2021. Face à la troisième vague qui se vit dans le pays, le ministre provincial de la Santé appelle la population à se faire vacciner massivement. Le lot de vaccins acquis hier a encore la validité jusqu'à la fin du mois de juillet prochain. Le Sud Kivu annonce par ailleurs l'arrivée incessante des vaccins autres que AstraZeneca. Le ministre Cosmos Bijisha, joint par Cynthia Bachizi.
Pour l'instant, nous avons reçu le deuxième lot d'AstraZeneca de 3000 doses pour nous permettre de continuer la vaccination en cours, mais aussi assurer la deuxième dose pour toutes les personnes qui avaient pris la première dose. Pour l'instant, nous avons plus de 3000 personnes vaccinées depuis le début de cette opération de vaccination. Mais toutefois, comme je vous dis, on va continuer. Le ministère national de la Santé a déjà commandé d'autres types de vaccins qui vont nous arriver. La situation du corona dans la province reste préoccupante. Raison pour laquelle j'appelle toutes les personnes ciblées de la vaccination de venir rapidement prendre leur vaccin. Ces vaccins sont disponibles dans toutes les formations sanitaires de la ville de Bukavu.
Au Maniema, l'organisation non gouvernementale Domaine Islamique pour le Développement Social procède à la distribution des kits de prévention et de lutte contre le coronavirus dans la ville de Kindu. À la troisième journée de cette opération qui a comme cible les écoles, mosquées, les services étatiques, les structures de la société civile et autres, la coordonnatrice de ce projet parle de la deuxième phase de l'exécution du projet par engagement communautaire et changement de comportement. Ce projet est financé par l'ambassade de Suède. On écoute Madame Nathalie Faïda Moubaké au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons eu un financement de l'ambassade de Suède via Diakonia. On nous a financé pour une durée de 7 mois. Nous avons commencé depuis le mois de janvier et maintenant là, le projet va prendre fin juillet. On a commencé avec les activités de renforcement des capacités, les ateliers de techniques de communication et sensibilisation, gestion, accès sur les résultats. Maintenant, nous sommes dans la phase de distribution des kits. En tout cas, nous sensibilisons parce que le projet est venu contribuer dans la liste contre le coronavirus. Il y a un dispositif, un seau, quelques savons liquides et quelques cache-nez aussi. Je voulais dire aux populations du Maniema que le corona, c'est une réalité et que nous devons nous protéger, protéger nos familles, protéger nos enfants aussi et s'approprier les projets parce que la sensibilisation, c'est pour tout le monde. Bon, nous sommes venus contribuer, mais que nous puissions continuer avec la sensibilisation, même à la maison. Il y aura aussi des sensibilisations au travers des émissions radio, et nous continuons à sensibiliser, à pratiquer, à respecter les mesures barrières.
Actualité internationale.
L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a été condamné à la prison à perpétuité mercredi par le tribunal criminel d'Abidjan pour atteinte à l'autorité de l'État, complot et diffusion des fausses informations. Les autres accusés ont écopé des peines allant de 17 mois à 20 ans de prison. À la sortie de l'audience à Abidjan, Maître Raoul Goïbi, un des avocats des condamnés, a promis de contester le verdict, comptant sur la sagesse des juges d'appel pour l'aider à rétablir le droit. Au Mali, 4 des 5 chrétiens enlevés lundi matin ont été relâchés dans le courant de l'après-midi, mercredi 23 juin. Le cinquième devrait l'être bientôt, promesse de ses ravisseurs. On était jusqu'ici sans nouvelles du curé de Ségué, près de Mopti, et des 4 fidèles qui avaient pris la route avec lui en direction de San, région de Ségou, pour assister à des obsèques. Il n'était jamais arrivé à destination.
L'invité.
La troisième vague de Covid-19 s'annonce très dévastatrice, selon les professionnels de la santé et les autorités congolaises. Quelles précautions les chefs des confessions religieuses et leurs fidèles doivent-ils prendre pour s'en prémunir? Pour y répondre, nous recevons comme invité le président du consortium des confessions religieuses dans la région de Béni, le bishop Janvier Baraka, s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur bishop Janvier Baraka, bonjour.
Bonjour.
La troisième vague de Covid-19 s'annonce un peu dangereuse. Les autorités ont pris beaucoup de mesures, parmi lesquelles celles qui touchent aussi les églises. D'abord pour vous, comment vous apercevez cette situation?
Il est vrai que la troisième vague s'annonce plus dangereuse, plus virulente que les deux autres premières. Et c'est fait que ça a touché les pays voisins et nous-mêmes à partir de Kinshasa. Déjà au Nord Kivu, nous avons même suivi une alerte du médecin de Butembo, le docteur Makelele, qui en a parlé. Et donc, notre message à la population et à tous les fidèles des églises, c'est de respecter les mesures qui ont été dictées par les autorités de l'État, notamment le chef de l'État qui a annoncé certaines mesures contraignantes par rapport au respect des gestes barrières. Dans nos églises, il s'est fait que depuis un certain temps, on a observé les lavages des mains à l'entrée des églises, mais ceux-là qui avaient observé un certain délaissement, nous leur demandons de renforcer les mesures de lavage des mains. Il faut aussi la prise de la température à l'entrée pour chaque personne qui entre à l'église ou dans une mosquée, prier, prendre sa température à l'entrée et respecter les mesures de distanciation. Ça veut dire que lorsque nous respectons les mesures de distanciation, la place ne pourra pas suffire pour tout le monde. C'est très simple. Si au lieu d'organiser un culte, on peut en organiser deux, je crois que il va de la responsabilité des leaders des confessions religieuses de protéger leurs membres, de protéger les fidèles, de protéger la population.
Mais monsieur le bishop, en écoutant les mesures et les décisions du gouvernement, c'est comme si il y aura même des mesures disciplinaires dans les cas où ces mesures ne seront pas respectées. Alors qu'est-ce que vous allez faire comme suivi de ces mesures dans les églises?
Nous sommes en train d'informer d'abord les leaders et c'est tout le monde qui suit ce qui se passe à la radio. Chaque leader suit les informations. Mais aussi, nous demandons que chaque leader soit responsable. Il ne faudrait pas que nous ayons la police ou les services de l'ordre pour nous rappeler ce que nous devons faire, alors que les mêmes policiers, les mêmes dirigeants des services de sécurité sont nos fidèles à nous. Donc c'est à nous de les éduquer et de les aider à mieux faire leur travail. Donc, il ne faudra pas qu'il y ait un coup de fouet pour qu'on nous rappelle ce que nous devons faire. C'est plutôt à nous de marteler, nous en tant que leaders, nous en tant que protecteurs des vies humaines, spirituelles, de les amener à respecter. Parce que, écoutez, on ne peut pas écouter la parole de Dieu si on est seulement dans l'esprit, on n'est plus dans le corps. Sinon, on prêcherait dans les cimetières. Et comme on ne peut pas prêcher dans les cimetières, c'est-à-dire que nous devons prêcher aux hommes qui sont encore en vie, ceux qui ont le souffle de vie en eux. Et c'est pour cela que nous devons éviter que ce soit comme des mesures qui nous amènent à une contrainte quelconque. Nous devons nous-mêmes sentir que nous avons besoin de la santé et alors amener tout le monde à respecter les gestes barrières.
Exactement. Alors, cette pandémie arrive avec beaucoup de puissance à sa troisième vague, alors qu'il y a aussi des mesures qui ont été prises dans le gouvernement d'État de siège. Quel comportement les fidèles vont appliquer maintenant?
L'état de siège, c'est une chose. Et puis, la Covid, c'est une autre chose. Mais elles vont de pair. En ce sens que dans l'état de siège, il y a des restrictions. Par exemple, on n'organise plus les veillées de prière. Bon, par exemple, il faut pas se promener la nuit. L'état de siège est venu pour renforcer l'autorité de l'État. Et qui dit l'autorité de l'État parle aussi de l'observance des lois de la République. Et dans l'observance des lois de la République, il y a aussi cette loi. Parce que les mesures barrières, c'est une loi. Lorsqu'elles ont été édictées, c'était par ordonnance-loi. Et une ordonnance-loi, c'est une loi qui vient de l'autorité suprême du pays. Donc, des parts et d'autres, nous devons tous conjuguer les efforts pour que l'état de siège ne nous amène pas à empiéter sur la Covid et que la Covid, l'observance des lois de Covid ne nous amène pas à empiéter sur l'état de siège.
Bishop Janvier Baraka, nous vous disons merci.
C'est à moi de remercier la radio Okapi qui nous a balancé son micro.
Fin de ce journal, mise en onde par Alain Goy, Richard Junior Kamunga était à la coordination, Ben Kabamba à la supervision, je me nomme Nico Kalambay. L'information continue sur le www.radiookapi.net ainsi que sur toutes les plateformes digitales. Place à présent au journal des sports avec Dieudonné Kabengalou.